France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
J'ai reçu plein de messages comme les PD, c'est une maladie, on devrait vous mettre en prison ou dans des camps. Voilà, c'est le fils de pute, je te trouve, je t'égorge, des choses comme ça.
Bah, si on réagit, on se prend une baffe, si on réagit pas, peut-être que ça peut aller plus loin parce qu'on m'a déjà molesté ou touché. Donc en fait, moi dans ces cas-là, je ne sais jamais comment me comporter.
J'aimerais vraiment que tout ça, ça s'arrête, que tout le monde puisse vraiment vivre comme ils entendent. Tu veux tenir ta petite amie en tant que lesbienne ou ton petit ami dans la main, et vas-y quoi.
Des brassards arc-en-ciel arborés dans les stades de football. À l'occasion de la journée internationale contre les LGBT-phobies, la Ligue de football professionnel demande aux coachs, capitaines et arbitres d'afficher leur soutien à la cause. La Ligue lance également un plan d'action pour qu'on n'entende plus crier PD ou enculé pendant les matchs. Mais les supporters n'ont pas le monopole de ce genre d'insultes. Elles continuent de fleurir dans l'espace public comme à l'école. Et les mots virent parfois aux menaces, voire à la violence physique. Selon un sondage IFOP, 55% des personnes gays, lesbiennes, trans ou bi ont déjà été victimes d'agressions. Et l'association SOS Homophobie s'inquiète de la hausse de la violence. L'an dernier, elle a recensé 231 agressions physiques à caractère homophobe, soit une hausse de 66%. Seuls 21% des victimes déposent officiellement plainte, mais la parole se libère de plus en plus. Et sur les réseaux sociaux, premier lieu d'expression des LGBT-phobies, on voit aussi de plus en plus de selfies de victimes qui montrent leur visage tuméfié et racontent ce qui leur est arrivé pour que la honte change de camp. Homophobie, quand les victimes disent stop, c'est un reportage signé Fiona Mogadam. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Flora Bolter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directrice de l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès. Fondation commanditaire avec la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, d'une étude sur les LGBT-phobies. Vous pourrez tout à l'heure commenter et compléter le reportage de Fiona Mogadam. Alors Fiona, on peut peut-être, avant d'écouter votre reportage, rappeler que ces dernières années, il y a eu des avancées en matière de droits pour les personnes LGBT et en matière également de lutte contre l'homophobie.
Ce qu'on peut citer comme avancée, par exemple, le PACS il y a 20 ans, puis le mariage pour tous en 2013, qui permet aussi aux couples de même sexe d'adopter. Fin d'une longue discrimination il y a 3 ans avec l'autorisation des dons du sang pour les homosexuels. En théorie, en tout cas, parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pour revenir à notre sujet du jour, la lutte contre l'homophobie, là aussi, il y a des évolutions. Depuis une quinzaine d'années, les crimes et propos homophobes sont condamnés au même titre que les crimes racistes et les propos racistes ou antisémites. Côté institution, il y a eu la création de la HALD, puis la DILCRA, pour lutter notamment contre les discriminations anti-LGBT. Et puis, très récemment, cette proposition de loi de la députée Avia, qui a été présentée pour lutter contre l'homophobie sur les réseaux sociaux, qui prévoit des amendes et des délais maximum pour supprimer les contenus homophobes notamment.
On écoute tout de suite le témoignage d'un jeune homme récemment victime d'insultes homophobes.
Je m'appelle Davy, j'ai 29 ans, fraîchement arrivé sur Paris. Je viens de province dans le sud de la France.
Vous êtes venu ici dans nos locaux à France Culture parce que début avril, vous avez posté un petit message sur Twitter que je vais vous lire. Vous avez écrit « Agression homophobe sur la ligne 11, c'est fait, je n'ai rien eu, j'ai eu beaucoup de chance ». Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ?
J'étais avec un ami très proche, même limite un amant on va dire, et qui n'était pas vraiment au top de sa forme. On rentrait de soirée, on était sur la ligne 11. Et je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé pour le soutenir, etc. Et on était 4 sur cette rame de métro et j'avais remarqué une personne alcoolisée. J'ai dit « fais attention à toi quand même en sortant, on ne sait jamais ». Donc mon ami est descendu, cette personne aussi, il ne s'est rien passé. En fait, la personne qui était potentiellement à risque est restée avec moi, donc j'étais tout seul dans cette rame-là. Et quand la rame est repartie, elle s'est approchée de moi me demandant si je trouvais ça normal. Donc je me suis interrogé en me disant « mais de quoi me parle-t-il ? » Et en gros, il a continué en me disant « mais tu es PD ?» J'ai répondu que oui, mais en mettant beaucoup de distance parce que je commençais vraiment à avoir peur. Il a voulu me cracher dessus, je l'ai évité, il m'a craché dessus par la suite. C'est la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas eu d'agression physique, ça a été juste du verbal. Et j'ai eu peut-être le malheur de raconter ça sur Twitter. Et le lendemain, aux alentours de midi, j'ai commencé à recevoir en fait de l'harcèlement ciblé par plusieurs personnes, notamment une. sur laquelle ça allait très loin, un coup de message privé, d'insultes, de menaces, menaces de mort, menaces. Et le pire, voilà, est arrivé par un profil type qui n'a pas arrêté de m'insulter et après qui a continué à insulter aussi d'autres personnes qui prenaient ma défense.
Et qu'est-ce que vous a dit cette personne sur, sur Twitter?
Ça a commencé pour. Il voulait savoir dans, à quel moment je prenais mon métro et à quel endroit pour savoir où c'est que j'habitais. Que les que PD, Fiot, alors j'ai pas l'autre mot en tête, mais voilà, que c'était des mots qui nous caractérisaient vraiment, que j'étais un sac à foutre, que j'avais le trou du cul dilaté, enfin des mots en fait très très violents, ben voilà, des fils de pute, des sales PD, en gros tu devrais mourir, enfin c'était assez violent, c'était le, pour moi ça a été le plus difficile sur cette situation là, c'était pas l'agression, enfin l'agression verbale dans le métro puisque j'avais la personne en face de moi et je pouvais montrer que je pouvais me défendre. Là, par des mots, par des textes, juste par des écrits, impossible. Et, voilà, il voulait vraiment me rencontrer pour me tabasser. Hein. En gros, c'était ça. Et je ne m'attendais pas à ça en arrivant à Paris. Parce que justement, si je suis venu à Paris, c'est pour être beaucoup plus libéré qu'en province. Parce que la province est quand même moins ouverte d'esprit sur ce genre de choses. La campagne, c'est pas forcément un endroit où on voit beaucoup d'homosexuels et si on est un peu trop efféminé ou pas. Moi, j'ai été très efféminé pendant mon enfance, mon adolescence. J'ai subi beaucoup de brimades à l'école, au lycée, etc. Mais pas que par des enfants, en fait, par des adultes aussi. Et j'ai dû changer ça. Et c'est malheureux de se dire qu'on doit changer pour plaire aux autres. Même si maintenant, même si je suis sur Paris et que je sens que c'est pas aussi safe, hein, sauf que ce que j'escomptais, je veux plus me cacher. Enfin voilà, je suis gay, je l'assume pleinement et j'ai pas envie de me cacher à cause de ça. Ça, j'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver là. Comment je suis issu d'une famille où mon papa était homophobe. Parce qu'il a eu une certaine éducation, mais il a appris avec moi et maintenant c'est le premier à me défendre. Enfin voilà, j'ai été homophobe parce que je me rejetais par rapport à tout ça. Et c'est juste parce qu'il faut comprendre les choses et que ça manque de prévention. Enfin, j'ai pas vraiment le mot, mais voilà, on manque de. J'aimerais vraiment que tout ça s'arrête, qu'on puisse vraiment, enfin, que tout le monde puisse vraiment vivre comme il entende. Tu veux être transsexuel, tu es transsexuel, tu veux te balader dans la rue habillé en femme, mais tu vas dans la rue habillé en femme. Tu veux tenir ta petite amie en tant que lesbienne ou ton petit ami dans la main, et vas-y, quoi. Et ça, c'est on n'y est pas encore, et j'ai l'impression que plus on avance, et moins on y arrive.
C'est pour tenter de faire évoluer les mentalités et sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre l'homophobie que l'association SOS Homophobie intervient depuis une quinzaine d'années dans les établissements scolaires. Chaque année, entre 20 et 30 000 jeunes suivent un atelier de 2 heures avec des bénévoles.
Du coup, moi je m'appelle Elisabeth et je suis bénévole de l'association SOS Homophobie et je suis venue avec
Pascal.
Nous sommes au lycée Gabriel Fauré, dans le 13e arrondissement de Paris. En ce vendredi matin, une trentaine d'élèves discutent avec Elisabeth et Pascal, venus animer l'atelier à la demande d'une partie de l'équipe enseignante et de l'infirmière scolaire.
Est-ce qu'on a dit exactement d'ailleurs ce que c'était que l'homophobie ?
C'est les personnes qui rejettent les homosexuels.
Ok, qui les rejettent. De quelle manière ?
Bah, ils les harcèlent ou je sais pas.
Donc ce sont des personnes qui rejettent les personnes homosexuelles ?
Oui, les homophobes.
Ok.
C'est simplement une forme d'intolérance.
Une forme d'intolérance ?
C'est des propos ou des actes qui sont tenus par des personnes envers d'autres par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, etc.
Dans cette classe, est-ce que les filles et aussi les garçons, vous avez le sentiment qu'il y a des stéréotypes qui pèsent sur vous ? Une fille ou un garçon, ça fait ci, mais ça fait pas ça.
Bah, aujourd'hui, une femme, elle doit avoir des formes, les grosses fesses, les gros seins, etc. Et, en tout cas, c'est comme ça qu'on idéalise la femme aujourd'hui.
Et qu'elle soit désirable.
Ouais, voilà.
Ouais. Du coup, on dit ça pour les femmes, mais c'est pareil pour les hommes.
Voilà, il faut qu'ils soient justement bombés, galbés, qu'ils ont, les plaquettes de chocolat, etc. Donc après, c'est sûr qu'eux aussi, de leur côté, ils vont essayer de se muscler comme les filles vont essayer de faire des régimes pour, je sais pas, pour avoir des hanches, des fesses, des seins, de la poitrine.
Et ok, si un garçon répond pas aux stéréotypes qui lui sont imposés par la société.
En fait, moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je suis pas un garçon. Mais les stéréotypes, c'est que on va surtout mettre une étiquette aux garçons qui vont être un peu plus efféminés. On va les associer avec leur orientation sexuelle. En fait, on va se dire, celui-là, par exemple, il met des jeans un peu slim, serrés. Tout de suite, il est gay ou des choses comme ça. Il s'épile, les repousse, il est gay. Non, alors qu'il est juste efféminé et qu'il prend soin de lui. Enfin, il a le droit.
Mais est-ce qu'il peut quand même être gay aussi?
Bah oui, oui, oui,
oui. Mais on peut aussi être gay et être très, très viril. Hein.
Ouais.
On peut aussi être gay. Enfin, viril. Ouais.
Est-ce qu'il y a un look de lesbienne? Est-ce qu'on peut reconnaître un petit peu ou se dire
ah, hein. Oui, mais dans le stéréotype.
Là, allez-y.
Comme on l'a dit, c'était surtout garçon manqué, cheveux courts, qui porte pas forcément des robes et des jupes avec des talons.
Okay. Comment ça marche? Comment on sait qu'on est hétérosexuel, qu'on aime les filles, qu'on aime les garçons? Est-ce qu'on choisit? Alors, c'est-à-dire, on choisit pas. Ah, vas-y.
Il y a des scientifiques qui pensent que c'est déterminé à la naissance par un chromosome. Mais en même temps, il y a quelque chose d'inverse qui dit qu'en fait, non. Mais je crois que moi, ce que je pense, en tout cas, c'est qu'au XXIe siècle, tout le monde a tendance à dire « oui, moi, je suis bi ». Enfin, surtout chez les adolescents, pour montrer qu'en fait, on est tolérant et que du coup, on n'est pas homophobe. Mais je pense qu'on peut effectivement être attiré sexuellement par un homme, mais tomber amoureux d'un homme, par exemple, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Un homme peut m'attirer physiquement, moi par exemple. Le fait de faire l'amour avec un homme me dérange pas personnellement, même si j'ai jamais essayé. Mais par contre, ça veut pas spécialement dire que je pourrais tomber amoureux d'un homme.
Est-ce que PD pour vous c'est une insulte?
Oui.
Non.
Non, ça veut dire que t'es homosexuel.
Alors PD ça veut dire quoi? Ça vient d'où PD?
Ah, je crois que c'est PD.
Ok, alors pédéraste, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Ça veut dire éducateur d'enfants, pédéraste. Je
Alors, pédéraste, ça vient de la Grèce antique et c'était des hommes adultes qui initiaient, des jeunes hommes, qui initiaient aux relations sexuelles, globalement.
Après, pédéraste, ça a été, pendant tout le XXe siècle, juste un synonyme d'homosexuel. Hein, et c'était d'ailleurs pas un mot injurieux. Donc là, on a de l'étymologie grecque qui nous renvoie à un système éducatif qu'on a du mal à comprendre. Mais ensuite, pédéraste, c'est un synonyme d'homosexuel.
Donc initialement, c'était pas pédéraste n'est pas une insulte, mais aujourd'hui, pédé est une insulte. Et d'ailleurs, du coup, Gwyn, est-ce que c'est une insulte?
Oui.
Donc du coup, si quelqu'un va insulter une femme de Gwyn sur son mur Facebook, à votre avis, est-ce que c'est puni par la loi?
Moi, je m'appelle Pascal, je suis bénévole à SOS Homophobie depuis 2009.
Le sexisme mène à l'homophobie dans la construction de l'atelier, si j'ai bien compris.
Oui, alors bien sûr, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être homophobe, mais c'est vrai que ce que nous avons identifié comme un point central autour de l'homophobie et de la transphobie, c'est les représentations que l'on a des rôles des garçons et des filles, des hommes et des femmes, qui du coup modèlent notre regard sur les personnes qui d'une manière ou d'une autre transgressent ces attentes liées au genre. Et notre souhait aussi, c'est de permettre aussi à chacune de ces personnes de réfléchir et de peut-être de se libérer aussi sur ce qu'on attend d'elles. On est là pour les personnes LGBT qui peuvent être concernées dans la pièce. On est là aussi pour que tous ensemble, nous ayons un regard différent sur les personnes LGBT+. Mais aussi, on peut penser qu'en s'interrogeant sur « je suis un garçon, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis une fille, qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, des élèves hétéros qui se vivent aujourd'hui comme hétéros puissent se dire « il y a peut-être une manière différente de vivre mon genre et de m'émanciper. » Il y a une portée un petit peu de libération là-dessus, qui n'est pas une libération sexuelle. L'idée n'est pas ni de les convertir à l'homosexualité, ni de les inviter à transgresser pour transgresser, mais de leur dire que c'est possible, qu'on peut être différent et heureux et bien, et qu'il ne faut pas qu'ils s'interdisent de réfléchir à cela. Je pense qu'une partie des élèves comprennent ce que c'est qu'une personne trans. Je pense qu'ils en sont en contact, il doit y avoir des émissions, ils sont plus attentifs. Après, ce qui demeure, c'est les stéréotypes liés aux personnes LGBT+, et à la peur que cela produit. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que dans les classes, on ait une très forte évolution de certains comportements LGBTophobes, des moqueries, des plaisanteries ou de certaines formes de harcèlement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une évolution importante de cela. Je ne suis pas sûr que ça s'améliore. Voilà.
Tout à l'heure, vous expliquiez que dans la rue, vous ne tenez jamais la main de votre mari. Est-ce que c'est parce que vous êtes comme ça tout simplement, ou est-ce qu'il y a une crainte de l'agression ou de l'insulte homophobe dans la rue ?
Moi, je me suis rendu compte en discutant avec les élèves qu'effectivement, je n'ai quasiment jamais de gestes d'affection envers mon mari dans des lieux publics, dans la rue, dans le métro, dans un café, au restaurant, ou vraiment très très peu. Et je crains malheureusement, c'est même pas la peur de l'agression. C'est même pas la peur de l'agression, c'est même pas intelligent comme comportement. Ce sont des habitudes, c'est une intériorisation de certaines manières de se comporter. Et heureusement, j'observe, c'est les jeunes militants et militantes d'SOS Homophobie, qu'ils n'ont pas les mêmes. Mais c'est vrai que moi, je me considère là-dessus comme un peu une génération un peu perdue, quoi. Je crois que j'y arriverai pas. J'y prendrai pas de plaisir à avoir cette démonstration. Je ne sais plus comment faire. Voilà, je ne sais plus comment montrer mon affection envers la personne avec qui je vis, avec qui je me suis marié, dans un espace public. J'y arrive plus.
C'est ancré en vous quelque part, c'est ça ?
Oui, c'est ancré. C'est vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est de l'homophobie intériorisée, mais je pense que c'est un réflexe de sécurité qui est complètement ancré, de la même manière que d'un point de vue vestimentaire. Moi, j'ai appris à ne pas m'habiller comme on pensait qu'un homosexuel s'habillait pour ne pas avoir l'être homosexuel et pour être tranquille. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez terriblement intériorisé, ce réflexe de protection.
J'ai compris que je pense qu'il y a des mots, des attitudes qu'on peut avoir. On prend pas du tout conscience en fait, que c'est violent pour certaines personnes. Et là, je pense que d'en parler, ça pouvait nous faire prendre plus conscience qu'il faut qu'on fasse plus attention à ce qu'on dit et être plus attentif aux gens en fait, par rapport à leur orientation sexuelle. Des remarques comme PD, des insultes, il y en a qui, quand il y a la Gay Pride, ils vont commencer à les insulter tous parce que ouais, franchement, ça me dégoûte, tout ça. Bon. Oui, j'ai été témoin.
Ça arrive souvent en fait. Par exemple, des manifestations, quand on voit des personnes avec le drapeau LGBT, et que d'autres insultent et disent que c'est répugnant ou qu'ils ne devraient pas avoir à assumer ça. Voilà.
J'ai un ami qui est homosexuel et qui a un copain et qui s'est déjà fait insulter dans la rue. Et ça m'a choqué que tout ça parce que la personne est différente et pas comme les autres, elle se fasse insulter par pure méchanceté et par peur, je pense, parce que dans le fond, on a peur de ce qui n'est pas comme nous et ce qui n'est pas pareil.
Je pense qu'il y a des personnes qui resteront toujours enfermées dans leur tête avec leurs idées et leurs stéréotypes, mais je pense que ça peut vraiment en aider certains à prendre conscience et des personnes intelligentes vont, grâce à ça, pouvoir évoluer, je pense, dans leur tête.
Alors moi je suis Elisabeth et je suis bénévole chez SOS Homophobie depuis septembre dernier et principalement je donne du temps dans la commission IMS qui intervient en milieu scolaire et au travail. L'idée quand même c'est de les faire parler eux et que ce soit eux qui s'expriment sur le sujet et qui puissent nous dire ce qu'ils en pensent etc. Et qui puissent parler des stéréotypes, des discriminations de manière générale. Et là en l'occurrence ça a été le cas, ils ont beaucoup parlé, il y a eu peu de personnes qui n'ont vraiment rien dit, même s'il y a toujours quelques personnes qui parlent plus que d'autres, mais globalement il y avait une bonne participation et ça c'est chouette. Quand tout le monde est très consensuel, tous d'accord qu'il n'y a pas de problème, c'est compliqué de déconstruire les stéréotypes. Et effectivement, parfois ça vient tout seul, il y a des réactions à chaud tout de suite, un garçon ou une fille va dire quelque chose qu'il a en tête et qui est de l'ordre de l'homophobie ordinaire. Et du coup, ça va permettre de déconstruire, d'en parler ensemble, etc. Mais c'est vrai que souvent, au lycée, c'est plus compliqué. Je trouve que plus les adolescents sont âgés et plus eux-mêmes se censurent, savent ce qu'ils doivent dire, pas dire, etc. Et c'est plus compliqué. Le fait juste de parler, juste de venir et de dire, on vient parler du sujet, on pose des définitions, on en parle ensemble, etc. Et ça dure 2 heures. C'est déjà une pierre à l'édifice le fait que ce soit un sujet traité. Et en plus, il y a aussi quand même quelque chose d'important qui est, la direction de mon lycée se dit que c'est un sujet important dont il faut parler, etc. Et ça montre que c'est pris en compte. Et voilà, et je pense qu'il y a un vrai enjeu de, il le disait tout à l'heure d'ailleurs, le jeune homme, que si on a quelqu'un de proche autour de nous qui est lesbienne, gay, bisexuel, du coup, on est plus à même d'être plus tolérant de manière générale avec la communauté LGBT. Et je pense que c'est vrai, c'est que dans l'éducation de manière générale, on va avoir dans les bouquins pour enfants, on va avoir peu de représentations de couples de maman ou de couples de papa. Dans les héros qu'on peut voir au cinéma, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. Et donc, plus dans la culture ou dans l'environnement dans lequel on se trouve, on aura des représentations de personnes LGBT, et plus on sera à même d'être tolérant et de trouver ça banal. Give you a hug and kissing, also wanted you to know they're gay.
Damien vient de terminer ses études à l'école de journalisme de Lille. En février dernier, lorsque l'affaire de la Ligue du LOL éclate, du nom de ce groupe Facebook, composé notamment de journalistes accusés de cyberharcèlement et d'insultes sexistes et racistes, l'étudiant décide de poster un message sur Twitter. Il y explique avoir subi des chants sexistes et homophobes lors d'un voyage avec ses camarades d'école pour participer à un tournoi de foot.
Il y avait des chants effectivement homophobes, sexistes et bien d'autres. Si on parle là spécifiquement de l'homophobie, ce n'était pas des chants très développés, mais le simple fait de dire « machin, c'est un PD », les mots comme « PD »,« enculé » qui revenaient sans cesse... Disons qu'à la longue, c'était un peu lourd déjà qu'en temps normal. C'est pas des choses qui sont acceptables de mon point de vue. Mais là, pendant plusieurs heures, à être 50 ou 60 dans un bus, c'est rapidement oppressant. Il y avait certains élèves qui ont demandé à plusieurs moments dans le bus pendant la nuit d'arrêter ces chants. Et ça n'a rien changé parce que certains étudiants... avant qu'il y ait ces chants et avant qu'on en discute entre nous, ne comprenaient pas forcément la portée de ce qu'ils étaient en train de chanter. Et forcément, l'effet de groupe fait que quand on est une minorité, on est inaudible et les chants ont continué une bonne partie du voyage.
Alors, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ?
Suite à ça, il n'y a pas eu de mouvement de la part de l'école ou de décision prise parce que l'école était... pas vraiment au courant de ce qui s'était passé. On en a beaucoup en revanche parlé entre nous, tout simplement dit à nos camarades qu'on n'acceptait pas forcément ce qui s'était passé. De toute façon, ils l'ont vite compris puisque pendant des mois on leur a un peu rabâché et ça a créé certaines tensions dans l'école. Moi le premier, à certaines personnes avec qui pendant des mois j'ai eu beaucoup de mal. Et finalement le fait d'en parler, parce qu'ils ont bien vu qu'on avait été plusieurs à être blessés, offusqués, et très rapidement ils sont venus pour la plupart s'excuser parce qu'ils ont pris conscience aussi de ce qui s'était passé. Et on a, je vais pas dire qu'il y a eu un travail entre nous, mais le simple fait d'en parler, d'expliciter pourquoi on avait été choqués, ça a fait prendre conscience. Et beaucoup aujourd'hui font particulièrement attention aux mots qu'ils utilisent, et ça leur a pour certains éveillé aussi une conscience sur ces questions là Parce que je pense que la plupart, c'était simplement potentiellement une question d'ignorance. Ils n'avaient pas forcément conscience de la portée, par exemple, de dire le mot « pédé » ou « enculé ». Enfin, parfois, voilà, ça peut passer pour une insulte ordinaire, mais les mots ont un sens et le fait d'en parler, ça leur a fait prendre conscience de tout ça.
Une fois au courant, l'école a ouvert une enquête interne, puis lancé une série de mesures pour lutter contre le harcèlement, notamment homophobe. Des actes homophobes qui sont aussi subis dans l'espace public, le simple fait de tenir la main de sa ou son partenaire quand on est lesbienne ou gay peut être un risque d'agression, qu'elle soit physique ou verbale. À 29 ans, Célia ne compte plus les insultes dans la rue.
Que ce soit à l'arrêt de bus un mec me traite de sale pédé, parce qu'à ce moment-là, il n'a sans doute pas le mot gouin qui lui vient en tête, donc... D'une part, il manque de mots pour m'insulter en tant que femme, et en plus de ça, il m'insulte parce qu'il sent bien que je suis probablement pas hétérosexuelle. Ce jour-là, j'étais seule, et il se trouve que j'avais une apparence que l'on pourrait qualifier de plus masculine que la majorité des femmes peuvent avoir. Cette personne-là a donc déduit que j'étais lesbienne, ce qui n'est pas bête. Et du coup, je pense que c'était l'occasion de me rappeler que je ne rentrais pas dans une espèce de norme, parce que quand je suis très féminine, je me fais plutôt aborder par des hommes qui ils me disent t'es jolie, donne-moi ton numéro, ce genre de choses-là. Là non, c'est clairement, apparemment, enfin, tu rentres pas dans cette norme-là, je vais t'insulter pour te le faire remarquer, parce que ça ne me convient pas. Donc moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui que je l'interprète. Et donc cette personne-là, à un moment, m'a craché dessus, quoi, parce que je réagissais pas. Enfin, j'ai vécu ça comme un acte assez violent. C'est devenu physique. Comment je m'en suis sortie ? J'ai eu de la chance que mon bus arrivait, je suis rentrée, j'ai essayé de me calmer. D'ailleurs, ça m'a pourri toute la journée, parce que je me suis dit, il aurait pu m'arriver ça. J'ai refait ma journée avec des si. Et si je lui avais répondu, je sais pas. Et si j'étais partie, est-ce qu'il m'aurait suivi ? Si je lui avais répondu, est-ce qu'il m'aurait collé une droite ? Parce que ça m'est déjà arrivé, en fait, qu'on me tape parce que je réponds « ta gueule » ou « occupe-toi de tes affaires ». Donc voilà, à ce moment-là, on se dit « qu'est-ce qui peut nous arriver ? À quel point ça peut aller plus loin que ça ?»
Pareil, quand vous avez été frappée, c'était de l'homophobie, là aussi ou...
Ah oui, là, c'était de l'homophobie. J'étais avec ma copine. À l'époque, j'étais à Marseille. Et je sais plus, je lui avais fait un bisou. Et puis là, il y a un gars qui passe... qui fait une remarque, je me souviens même plus laquelle. Ce dont je me souviens, c'est qu'au moment où je lui ai répondu, j'ai même pas terminé de lui répondre, qu'il m'a collé une baffe en fait. Il attendait qu'une chose, c'était que je réagisse. Sauf que en fait, si on réagit, on se prend une baffe. Si on réagit pas, peut-être que ça peut aller plus loin parce qu'on m'a déjà molesté un peu ou touché. Donc en fait, moi dans ces cas-là, je ne sais jamais comment me comporter. Bah pour m'en sortir et que ça passe, que ça glisse, que ce soit derrière, que ce soit juste un mauvais moment, en fait.
Là, ce que j'entends, c'est que ça vous est quand même arrivé à plusieurs reprises.
Oui, à plusieurs reprises, évidemment. Je ne saurais pas compter les fois, c'est des dizaines de fois. Il y a le sale pédé, le classique du ou des mecs qui veulent se faire un plan à trois, s'incruster parce que ça les fait fantasmer. Ça va être, ça a été quoi? Ça a été du sale gouin, sale lesbienne, ou ah, t'es lesbienne, enfin oui, très bien, soit, en quoi ça peut t'intéresser. En fait, ça prend énormément de formes. Ce qui m'alerte dans tout ça, dans toutes ces formes, c'est surtout quand il y a une attitude non-verbale, en fait, qui paraît menaçante derrière. Se faire traiter de sale gouine et tout ça, ok, il y a des fois où, oh oui, bon, encore une fois, j'ai l'habitude. Hein. Après, quand il y a le mec qui commence à nous suivre, que c'est la nuit, et qu'on voit beaucoup de gens qui zonent, et que là, il nous dit, ah, ça va, tu l'encules bien, tu aimes bien la prendre et tout ça, là, on se dit, mais comment ça va se passer? Et qu'il commence à nous suivre, et qu'il ne nous lâche pas, et que les gens autour ne réagissent pas.
Qu'est-ce que vous avez fait suite à ces diverses agressions, que ça soit de simples et banales insultes presque, j'ai envie de dire, à des agressions plus physiques comme vous en avez vécu?
Ce que j'ai fait, pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que quand j'étais bien plus jeune, une de mes copines avait joué à me harceler, à mettre une photo de moi nue sur Internet. Donc j'ai... plein d'autres choses. J'ai voulu porter plainte et en gros on m'a dit bah ouais mais faut pas se mettre avec une fille, bah ouais mais c'est ça les lesbiennes, ah bah vous l'avez un peu cherché, on m'a dit vous l'avez cherché, on ne l'a même pas insinué, on me l'a dit. Donc ça c'est la police qui me répond ça, qu'est-ce que je peux faire si demain je vais dire bon bah voilà j'ai été agressée en tant que lesbienne, ils vont me dire ah bah oui mais vous l'avez bien cherché, fallait pas se tenir la main dans la rue, enfin on le vit une fois, on n'a pas envie de le vivre une deuxième fois. Quand on est un homme gay, on est un homme. On est gay. Quand on est lesbienne, on est une femme et on est lesbienne. Une femme et homosexuelle. C'est deux choses à porter. Quand on va porter plainte aujourd'hui en tant que femme pour une agression sexiste dans la rue, parce qu'on est une femme, bah ça passe pas bien chez la police. Enfin, c'est bon, j'en ai fait les frais, je le sais. Entre un apéro avec ma copine et aller faire la queue au commissariat, c'est vite vu en fait. Moi, je vais passer du bon temps à planifier mes vacances avec ma copine. Alors oui, ça débouche peut-être pas sur quelque chose de collectif. Sur le plan collectif, j'ai du mal à voir à quel point ça peut apporter des choses aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui sont allés porter plainte, c'est pas les faits qui manquent. On n'en a pas fait grand-chose. Alors le jour où on se fera un peu moins taper sur la gueule, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, cette histoire. Le jour où on se fera un peu moins insulter quand on va porter plainte, on ira plus. Mais en même temps, tant qu'on n'y va pas, eh ben, on se fait pas traiter correctement. Donc voilà, après, moi je réagis individuellement et je fais ce choix.
C'est justement pour être sûr d'être traité correctement que Davy s'est renseigné auprès d'une association avant d'aller au commissariat. Impossible pour lui de laisser passer le harcèlement et les menaces dont il a été la cible sur les réseaux sociaux.
Donc j'ai fait mon dépôt de plainte, c'était quand même de ressasser ça après 10 jours, parce que c'est à peu près 10 jours qui se sont passés. C'est assez difficile en fait, parce que autant ça m'a touché... En premier abord, autant j'ai pu oublier, voilà, j'ai travaillé, en plus je suis parti en vacances, donc j'ai pu relâcher un petit peu toute cette pression-là. De à nouveau reparler de ça, montrer les captures d'écran, montrer les insultes, et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper hard, hyper dur. Au début j'ai pris ça vraiment en autodérision, mais après un temps, en relisant les insultes, en relisant tout ça, ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Ça m'a touché au final. Et je me suis senti, en plus le plus difficile, c'est que je me suis senti sale, non pas parce que je suis gay, mais parce que quand on fait un dépôt de plainte, et par exemple quand on reçoit des insultes sur un domaine public comme Twitter, sur la plainte est écrit précisément les mots pour mots, les insultes, et le fait de le dire à l'agent de police, je me suis senti sale en fait. C'est pas moi, ça correspond pas à ce que je suis, et ça a été une double couche par rapport à la première fois. je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui se sent protégé derrière un pseudonyme, qui se croit à l'abri chez lui, protégé derrière un écran. Et c'est ça qui me rend hors de moi et qui me... Et j'ai envie que ça aille plus loin, j'ai envie de revoir cette personne au tribunal. J'espère que ma plainte va être prise en compte et qu'on puisse aller plus loin.
C'est important pour vous cette démarche-là aussi ?
Alors je ne sais pas si c'est la France, je ne sais pas si c'est Paris, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'est plus à l'abri en fait. Et du coup oui, je trouve que c'est important. En fait, depuis la loi pour le mariage pour tous, depuis la manif pour tous et toutes ces grands pontes qui nous ont harcelés et qui continuent de nous harceler, il y a un effet de recrudescence d'homophobie que je trouve de plus en plus important. Et donc ce gars-là, je vais tout faire pour le revoir au tribunal et voir son visage et lui montrer vraiment qui je suis et lui montrer que tout ce qu'il a fait, j'ai pas peur de lui. Ce qu'il dit, c'est violent, mais ça m'inspire pas la peur, ça m'inspire déjà de la pitié, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit se sentir très seul pour passer son temps à insulter les gens, et surtout pour montrer que voilà, ce qu'il a fait, ben, ça ne m'atteint pas et je suis toujours là et je serai toujours là. Et je serai toujours ce que je suis.
Oui, allô ?
Oui, bonjour, Lies, c'est Fiona Mogadam de France Culture.
Lies Alouane est délégué Île-de-France de l'association Stop Homophobie. Des messages homophobes, c'est tous les jours sur son fil Twitter. Il en dénombre une centaine par mois.
Voilà, donc là, exemple, c'est souvent des messages comme les PD, c'est pas naturel, c'est une maladie, vous avez le sida, des choses comme ça. On a eu, il n'y a pas longtemps, un message, c'était « il faut brûler les PD et les juifs ». Ou sinon, on voit que la racine, elle est semblable entre le sexisme et l'homophobie. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a donc les religions, la culture. Et dans certaines cultures, on a une sacralisation de l'homme. Donc c'est la virilisation de l'homme. En fait, on se dit comment l'homme peut se rabaisser à ça, en fait. À ce qu'une femme fait, quoi. Limite avec un dégoût, quoi. Par rapport à la femme qui, selon eux, a une moindre valeur que l'homme. Et c'est souvent des messages comme ça qu'on retrouve, voilà.
Et là, par exemple, sur les messages que vous avez reçus récemment, c'est de quel ordre ? C'est des messages qui vous sont adressés directement, en plus, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, j'ai reçu plein de messages, donc... Va te faire soigner de ta maladie. J'espère que la prochaine fois que tu vas sortir de chez toi, tu vas te faire casser la gueule. On devrait vous mettre en prison ou dans des camps. Voilà. Après, il y en a un autre qui m'a dit... sale PD. Donc, j'ai aussi un autre con qui m'a dit... sale fils de pute, je te trouve, je t'égorge. Des choses comme ça. Après, bon, tellement on en reçoit, on dépose plainte vraiment pour les plus virulentes. Mais malheureusement, même quand on dépose plainte pour les plus virulentes, souvent, elles sont classées sans suite. Donc là-dessus, on a aussi un très grand souci sur la sensibilisation des magistrats, mais aussi apparemment sur leurs moyens qui les obligent à malheureusement classer les plaintes sans suite, quoi. J'en ai assez, mais en fait, si vous voulez, ce qui me dérange le plus, c'est plus l'inaction de la justice et mes plaintes classées sans suite que les injures en elles-mêmes, à force. Si vous voulez, eux, quand ils disent des injures, des menaces de mort à caractère homophobe sur Internet, si personne à la fin leur dit « Écoute, ce que t'as fait, c'est interdit, voilà, on va te sanctionner, hein. C'est un délit que t'as commis, c'est très grave. » Donc la personne va continuer. Si on lui dit pas stop, elle continuera.
Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.
Au parquet de Paris, toute une section travaille sur ces questions de lutte contre les discours de haine. Elle est saisie chaque année d'une cinquantaine de signalements d'insultes homophobes. Aude Durée est vice-procureure, c'est la chef de la section presse et liberté.
Le discours de haine se libère à chaque changement de nature sociale ou à chaque moment d'instabilité pour la société ou moment de crainte. Nous aurons par exemple une explosion du discours de haine homophobe sur les réseaux sociaux au lendemain de manifestations telles que la Gay Pride ou au lendemain de débats parlementaires sur les droits que l'on peut accorder à la communauté homosexuelle lors de telle ou telle réforme sur l'état des personnes, par exemple. Nous avons poursuivi des personnes qui avaient tenu des propos à caractère injurieux à l'égard de la communauté homosexuelle. Au lendemain, vous savez, de l'attaque terroriste qui a coûté la vie d'un fonctionnaire de police sur les Champs-Élysées. Il y avait eu aussi cette attaque à Orlando, je crois, qui visait une discothèque accueillant la communauté homosexuelle. C'était en 2015 ou en 2016. Donc c'était il y a plus de 3 ans. Mais là aussi, le discours de haine homophobe s'était libéré sur les réseaux sociaux. L'augmentation ou notre connaissance un peu plus aiguë sur la réalité de ce discours résulte aussi de l'explosion des réseaux sociaux, d'une libération de la parole de haine qui est facilitée par l'anonymat. Et l'explosion des réseaux sociaux est facilitée non seulement par l'anonymat, mais aussi par une logique de surenchère, de provocation, d'outrance et de désir d'être visible parce qu'on aura la parole la plus crue, la plus choquante ou la plus édifiante.
Alors, quand on est le parquet, comment on agit contre ces propos, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, nous avons différents modes de saisine. Je vous parle du discours de haine qui explose sur les réseaux sociaux, donc il y a des techniques d'enquête très particulières. Mais nous avons aussi un discours de haine qui résulte des relations du quotidien, dans les différentes natures professionnelles, les différents voisinages, les différents routiers, par exemple. Dans cette hypothèse-là, il n'est pas rare que la victime connaisse son agresseur, donc l'enquête est assez simple. Et puis, nous avons aussi tous ces signalements qui dénoncent essentiellement les injures, les discours de haine homophobes qui sévissent sur Internet, sur la toile. Pour l'internaute qui va s'exprimer sur tel ou tel sujet, vouloir soumettre son opinion et jouir de son anonymat, il va ensuite s'épancher et être dans un large abus de sa liberté d'expression et dans une claire transgression des limites fixées par la loi sur la liberté de la presse, ces personnes un peu individus anonymes particuliers qu'on aura du mal à retrouver effectivement faute de réponse à nos réquisitions auprès des opérateurs.
Et ces auteurs de propos homophobes, quand vous parvenez à les identifier, est-ce que vous les poursuivez systématiquement?
Chaque signalement donne lieu à un départ en enquête et à un suivi de l'état d'avancement de cette enquête. Et quand il y a une identification de l'auteur des faits, il y a une réponse pénale systématique.
Selon l'association SOS Homophobie, en moyenne sur 28 plaintes déposées, une seule débouche sur une condamnation en justice. Ce n'est pas seulement en raison de la difficulté de retrouver les auteurs des agressions homophobes pour Caroline Mécari. Elle est avocate au barreau de Paris depuis les années 90. Elle défend des lesbiennes gays ou trans dans des affaires de droit de la famille ou d'homoparentalité, mais aussi d'agressions homophobes.
Ce que je peux dire sur la manière dont les juridictions appréhendent, c'est-à-dire jugent ces affaires, c'est qu'à partir du moment où une affaire vient devant une juridiction, elle a déjà une certaine solidité. La difficulté, le plus souvent, résulte de ce qu'il faut parfois vraiment batailler pour faire reconnaître le caractère homophobe, le mobile homophobe de l'agression, tout comme il est extrêmement difficile de faire reconnaître un mobile sexiste dans une agression à l'égard d'une femme. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que l'auteur, évidemment, va nier le caractère homophobe de son agression. Il n'a pas envie d'être renvoyé à son homophobie pour de multiples raisons. Et puis aussi parce que les juges, ou du moins certains juges qui sont désignés pour examiner l'affaire, n'ont pas forcément envie d'entendre cette dimension homophobe, là aussi pour des raisons qui tiennent à ce qu'ils sont, tout simplement. Et donc, il y a une bataille à mener, qui parfois est compliquée, pour que le caractère homophobe soit reconnu. Mais je dirais que, même s'il faut encore régulièrement batailler pour que ce caractère homophobe soit reconnu, il y a de plus en plus de juridictions qui, j'allais dire, le retiennent, puisqu'il s'agit donc, comme vous le savez, d'une circonstance aggravante d'une infraction. Si une infraction est commise, des coups et blessures ou un homicide est commis à raison de l'orientation sexuelle, c'est une circonstance aggravante. Cela veut dire que la peine encourue est elle-même plus importante que si l'agression n'avait pas ce mobile homophobe. Là où on a des difficultés, c'est d'abord le recueil des plaintes. Est-ce que les policiers sont suffisamment bien formés au recueil de la plainte d'une victime d'un acte homophobe? On ne peut que s'améliorer et on ne peut que souhaiter qu'il y ait une augmentation de la formation des policiers qui ont l'obligation je le répète tout le temps, l'obligation de prendre les plaintes. Ils n'ont pas à se faire juge des faits. Lorsqu'une personne vient dans un commissariat et vient expliquer qu'elle a été victime, que ce soit d'agression dans le cadre de relations de voisinage, d'insultes à caractère homophobe, que ce soit de coups et blessures, d'un viol ou d'actes physiques extrêmement violents, la police a l'obligation de prendre la plainte. I am me, and I know I will
always be. Je suis free, oui, j'en vante ma vie. Les difficultés de déposer plainte, de faire condamner les auteurs d'actes homophobes, des procédures lourdes régulièrement dénoncées par les associations. Terence Katchadourian est le secrétaire général de Stop Homophobie.
Notre association aurait dû venir en aide à des victimes, à des êtres humains, etc., et non pas devenir des procéduriers. C'est difficile d'avoir à mandater des avocats, à remplir des... Déjà, écouter les victimes, à les prendre en charge. Déjà, c'est ça, ça aurait dû être ça, nos actions. Pas devoir réclamer aussi justice. Donc là, c'est vraiment difficile. Oui, malheureusement, il y a quelque temps, je vous aurais dit, la sensibilisation et la prévention, le dialogue est super important, mais je ne peux plus nier qu'il est nécessaire d'engager des poursuites, d'appeler à la justice, parce que s'il n'y avait pas eu ces plaintes, et puis s'il n'y avait pas surtout les décisions de justice qui sont comme de plus en plus conscientes de ce qui se passe, parce qu'avant on avait beaucoup de sursis et de peines aménageables, donc c'était difficile pour les victimes. Mais maintenant, de plus en plus, il y a d'abord beaucoup d'amendes, effectivement, de véritables peines de prison, et on attend. Comme on en a déposé beaucoup de plaintes, on attend, on espère qu'il va y avoir des décisions et des jugements lourds pour qu'effectivement, là, on puisse donner une bonne alerte aux homophobes et à tous ces discriminants qui s'autorisent à penser qu'ils ne seront pas sanctionnés, que si. Donc oui, malheureusement, c'est important à la fois le volet justice et le volet prévention, etc. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que nous sommes désormais de plus en plus aidés par les politiques sur l'aspect justice. On nous soutient et on nous incite. Donc oui, je pense que de plus en plus de gens ont conscience que oui, effectivement, il faut aller en justice. C'est incroyable d'avoir à lutter pour des droits. Se battre pour nos droits, quoi. C'est incroyable. Alors, on se parle souvent d'un combat, mais en vérité, il s'agit d'une cause qui est tout à fait humaine, puisqu'en vérité, nous ne sommes pas des extraterrestres, encore une fois. Tout ce qu'il y a à mettre en place, etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, même si ça n'y paraît pas. Il y a des structures gouvernementales qui nous appellent pour nous demander de l'aide. Ça devient terrible, quoi. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des situations de précarité parce que l'homosexualité, en France, hein, et qui ont besoin d'être très clairement protégées. Et donc voilà, et ça, c'est vraiment à mettre en place. Moi, je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi.
Roi, la chanson de Bilal Hassani qui représente la France demain à l'Eurovision. Je rappelle qu'il est lui-même quotidiennement victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Homophobie, quand les victimes disent stop. Un reportage de Fiona Mogadam avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de grand reportage, Flora Bolter, co-directrice de l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès. Flora Bolter, on entendait Terence Katchadourian de SOS Homophobie. Il dit, on espère qu'il va y avoir des jugements lourds, mais la peine toute seule n'entraîne pas forcément une prise de conscience, un changement de mentalité. Est-ce que quand condamnation il y a, c'est accompagné d'un travail de pédagogie, de sensibilisation ?
Alors, en fait, la difficulté, c'est qu'on est dans des différences de situation. Donc, Terence Katchadourian de Stop Homophobie a fait un choix. Enfin, c'est une association qui a fait un choix autour de la sanction. Et c'est un choix qui est très intéressant et qui est très important. Effectivement, il y a un problème dans l'application de la loi et dans la sanction. Dans certains cas, il peut y avoir des mesures plus éducatives. Ça dépend complètement de l'âge de la personne, des circonstances, et puis du ressort où on se situe. Effectivement, c'est assez compliqué. Avec les auteurs, effectivement, il y a cette difficulté. La prévention marche beaucoup mieux quand on s'adresse à des personnes qui sont plus jeunes, qui ne sont pas déjà auteurs de crimes, parce que c'est toujours très... Enfin, de crimes ou de délits, mais c'est très difficile d'intervenir en prévention, on va dire, tertiaire, lorsque les faits ont déjà eu lieu, lorsqu'il y a déjà eu un passage à l'acte.
Alors, on voit la difficulté du parcours judiciaire quand il y a eu passage à l'acte. On entend Célia qui dit, ben, du coup, moi, je laisse tomber. Oui. C'est le cas de beaucoup de personnes.
Absolument. Dans l'enquête que nous avons, que l'IFOP a réalisée pour la Fondation Jasmin Roy ainsi que la Fondation, une chose qui est assez claire, c'est qu'on n'a qu'une personne sur cinq qui porte plainte, alors que 55% des personnes LGBT, donc c'est un sondage représentatif sur l'ensemble des personnes LGBT, donc ça a une valeur assez forte, ça dit quelque chose d'assez solide sur l'état de notre société. Donc la plupart sont victimes de ça. On ne compte effectivement même pas les insultes, parce que quand on dit oui, j'ai été agressée ou j'ai été discriminée en raison, comme le disent plusieurs des personnes, les insultes, on les compte plus. Et donc effectivement, parfois, on finit par ne plus compter certaines choses. Et la plupart du temps, il y a ce calcul qui est fait entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Et il y a cette appréhension forte de la police, cette appréhension de passer énormément de temps pour rien, de s'en prendre plein la gueule pour rien et pour une probabilité de condamnation qui est infinitésimale.
Alors, il faut peut-être quand même souligner que les insultes et les actes violents, c'est le fait d'une minorité. C'est pas toute la société française qui est homophobe.
Alors non, heureusement.
Il y a eu une vraie évolution quand même. On peut dire que depuis les années 80, il y a eu un sacré...
Alors oui, moi à l'échelle de ma vie, je m'en rends compte assez bien. Et je pense qu'on se rend... Enfin, des fois, quand on est dans le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte de ce genre de choses. Et il y a une forte lassitude parce qu'on entend toujours les mêmes choses. Mais on les entend différemment. Et moi, je parlais avec des enfants hier. Et c'est vrai que les questions qu'ils posaient, ce n'est pas du tout celles qu'auraient posées les élèves de ma classe quand moi, j'avais leur âge. Donc oui, il y a des choses qui change, heureusement, et globalement, la société française évolue là-dessus. Mais précisément, parce qu'elle évolue là-dessus, et parce que nos droits commencent à... parce qu'on s'approche un peu de l'égalité, il y a des personnes qui se sentent complètement... enfin, qui se radicalisent, qui se polarisent, et qui comprennent... enfin, qui se sentent... Qui sentent mises en danger. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'intériorisation et de ce que ça peut dire d'eux, etc., de tolérer l'homosexualité des autres, ce genre de choses. On voit que les agresseurs sont souvent en groupe, ça c'est une des choses qu'on trouve dans notre enquête. Ils sont souvent en groupe, ils sont plutôt des hommes jeunes, et on voit aussi, on a aussi cet effet qui est lié au débat. C'était ce que disait la parquetière. Lorsqu'il y a une marche des fiertés, on voit augmenter les actes. Et effectivement, il y a une libération de la parole parce qu'il y a une crispation d'une partie des gens qui, en fait, c'est un choc en retour. Quand on réclame l'égalité et quand on est plus visible, il y a des gens chez qui ça passe pas et du coup ils se lâchent.
Mais vous soulignez qu'il s'agit souvent le fait d'hommes jeunes, alors qu'on aurait pu penser que ce serait des personnes plus âgées avec un phénomène générationnel en fait, puisque il y a une société qui évolue progressivement. En fait, c'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il faudrait comparer avec les sondages d'opinion effectivement sur les valeurs des personnes, donc notamment. Alors je crois pas que Robert mette des notions là-dessus, mais sur les valeurs des Français. On aurait des choses relativement différentes, parce que ce qui se passe pour les agressions, c'est vraiment un phénomène de groupe, un phénomène un rappel à l'ordre, parce qu'on voit aussi que les victimes sont des personnes plutôt des hommes androgynes ou se décrivant comme féminins, ou des femmes se décrivant comme masculines ou androgynes. On a vraiment un phénomène, une crispation sociale qui est très forte et qui a une forme de prurite qui est plutôt où il y a un passage à l'acte plutôt des plus jeunes. Après, il peut y avoir d'autres formes. Il y a des formes de discrimination qui ne sont pas l'apanage des jeunes, bien sûr. L'opinion défavorable aux homosexuels, elle n'est pas l'apanage des jeunes, bien évidemment. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a, ce phénomène autour des personnes qui ont vécu des agressions et qui en font le portrait robot. On voit que c'est un phénomène assez fort, parce que c'est 60% quand même qui sont où l'agresseur était en groupe. et donc avec une très forte prépondérance d'hommes plutôt jeunes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort. On se rend compte aussi que les plus jeunes, ceux qui sont les étudiants, les jeunes, les moins de 35 ans, ceux-là sont aussi victimes sur leur lieu d'études, souvent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez ceux qui, quand on demande à ceux qui sont plus vieux de raconter ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient étudiants, on retrouve pas ça.
Et ce qui est assez troublant, c'est la pratique du guet-apens.
Oui.
Qui survient apparemment plus qu'avant.
Oui, alors ça, c'est des effets, c'est toujours des effets sociologiques assez particuliers, parce que là, il y a un phénomène de voisinage et de connaissance de personnes dont on va pouvoir identifier les parcours et qu'on va pouvoir, où on va pouvoir monter tout un piège. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a vu. Je crois qu'on a vu cette année, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, déjà qu'on a vu une augmentation de plus d'un tiers des actes, et en particulier des agressions physiques, et notamment ce type d'agressions, qui sont vraiment inquiétantes. Il y a, en fait, là où l'homophobie était tellement, elle allait tellement de soi qu'elle était presque inconsciente il y a quelques années, aujourd'hui, on est sur des gens qui sont dans une forme de revendication, ils font un geste qui a un sens social fort pour eux, et qui a un rappel à l'ordre et qui est extrêmement violent. Mais globalement, la société évolue, mais pour ces personnes-là, il y a ce phénomène où ça va être pour eux beaucoup plus vital et ils vont y mettre énormément d'énergie jusqu'à faire ces guet-apens.
Et ça s'appuie sur un fond culturel, religieux ? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement identifiées ?
Alors là-dessus, c'est difficile à dire puisqu'on fonctionne évidemment en victimation, donc sur ce que déclarent les victimes, donc c'est très difficile de se mettre dans la tête des agresseurs. Mais fondamentalement, on ne voit pas particulièrement d'effets, il y a des effets qui peuvent être des effets culturels et de ce qu'on a reçu comme valeur dans la société, bien sûr, mais concrètement c'est assez diversifié, et dans les portraits que font les gens, on ne voit pas particulièrement de facteurs spécifiques en dehors du fait que ce soit des groupes de jeunes hommes. On n'a pas tellement de choses qui ressortent très clairement dans un sens ou dans un autre. A priori, il y a cet aspect, et il y a cet aspect d'attaque qui privilégie des personnes qui ne représentent pas la norme, en fait. Donc les hommes qui ne sont pas masculins, les femmes qui ne sont pas féminines, entre guillemets, bien sûr, et les personnes qui fréquentent les lieux LGBT. Donc il y a vraiment cette volonté de s'attaquer à la visibilité, en fait, à l'idée que les personnes LGBT puissent être visibles dans l'espace public.
Et donc plus on est visible, plus on a ce risque de se retrouver insulté, frappé.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'était Célia qui parlait de ça. Il y a, sur la question du choix individuel et collectif, sur le long terme, la visibilité. Il y avait aussi des jeunes qu'on entendait dans les interventions de SOS Homophobie, qui fait un super boulot de prévention auprès des jeunes. Les jeunes qui parlaient de leurs amis et de l'effet et du changement que ça faisait autour de l'entourage, et du fait qu'ils s'étaient rendu compte que c'était un peu nul d'avoir ce genre de réaction. Et donc ça, c'est super. Et effectivement, être visible et dire aux gens, oui, quand vous êtes en train de dire ça, des personnes LGBT, vous dites ça de moi. Et ça a une valeur qui est énorme et qui fait vraiment changer les mentalités, et qui est super sur le long terme. On voit aussi sur l'ouverture de la société française avec des sondages depuis le mariage pour tous. Donc on a cet effet-là, mais sur le plan individuel, la visibilité, c'est aussi un facteur de risque. Et donc il y a cette espèce de choix un peu cornélien à faire, qui est sur le long terme, ou pour le collectif, la visibilité, c'est très positif. Et sur le court terme, la visibilité, quand on est une personne isolée, c'est aussi un facteur de risque.
Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment eu du progrès dans les lois, qu'il faut vraiment du temps pour que tout ça s'ancre véritablement, devienne plus concret dans la société française. Vous, aujourd'hui, quelles sont les urgences à vos yeux ?
Alors concrètement, sur la lutte contre les violences, les discriminations, les agressions, ce qui est très clair et ce qu'on voit, c'est cette absence de confiance, cette espèce de gouffre de confiance dans les victimes. qu'ont les victimes vis-à-vis des services qui sont censés les accueillir.
Des policiers, par exemple.
Par exemple, les policiers. Ça peut être le cas aussi avec les services médicaux, les médico-juridiques et ce genre de choses. Il y a une appréhension assez forte. Et pour le coup, il y a un gros travail de formation qui est à faire. Et ça, pour le coup, le ministère de l'Intérieur a fait des annonces cette semaine, notamment de mise en place de services de formation transversale pour tous les professionnels. Ça doit être le cas également. Enfin, nous souhaiterions que ce soit le cas un peu partout, parce que tout le service public doit être en particulier à même d'accueillir les gens sans discrimination. Mais typiquement, la magistrature, c'est pareil, puisque on a bien vu avec l'intervention de Caroline Mécari, il y a encore du boulot à faire de ce côté-là. On a des lois, on a des éléments de base, mais leur application est encore complètement défaillante, et notamment autour de l'accueil des victimes. Donc il y a énormément de boulot à faire pour faire en sorte que le droit devienne une réalité par la formation, par l'encouragement de bonnes pratiques en matière d'accueil.
Et un dernier mot, il y a ce projet de loi sur l'extension de la PMA à toutes les femmes en France. Édouard Philippe a dit qu'il souhaitait qu'un texte soit présenté avant l'été. C'est un signe très encourageant pour vous, ça ?
Alors oui, nous sommes très, très favorables à l'ouverture de la PMA, bien évidemment. C'est quelque chose que nous portons avec force. Il faut aussi que cette ouverture s'accompagne de la reconnaissance de la filiation dans les couples de même sexe, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui fragilisent les enfants et qui fragilisent les familles autour de cette non-reconnaissance. Donc on a encore un très gros combat d'égalité. On sera très attentif aux modalités dans lesquelles ce sera proposé.
Merci beaucoup Flora Bolter. Merci. Homophobie, quand les victimes disent stop. Le grand reportage de cette semaine était signé Fiona Mogadam. Réalisation Annie Bro, avec Jean-Frédéric Salatechnique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.